franceinter.fr.
Qui s'intéresse à Cannes, là, c'est... Faut être complètement con pour aller à Cannes cette année, là, avec tout ce qui se passe en ce moment. Non, ça, c'est comique, ça.
C'est vrai que c'est pas faux, hein.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Une heure.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now go away.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Il est enfin arrivé le premier vrai film à Cannes. Et c'est une série, Twin Peaks de David Lynch, saison 3, épisode 1 et 2, projetés ici. Un univers, un fol imaginaire, une signature. Bref, tout ce que l'on attend du cinéma et qui s'est fait si rare pendant cette 70e édition de Cannes, où nous sommes en direct. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à Cannes, à tous et à toutes.
À quelques exceptions près, Cannes ne fut pas une grande édition. Pas d'immenses découvertes, ni d'emportements critiques, une biographie poussiéreuse, un remake indigne ou de grands auteurs décevants. Alors nous garderons les exceptions, comme 120 battements par minute de Robin Campillo, Faute d'amour du russe Zaginsev, mais aussi L'Atelier de Laurent Cantet, 12 jours de Raymond Depardon, un hors-piste Jeannette de Bruno Dumont, plus deux curiosités, The Square du Suédois Östlund et La mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, et enfin une friandise, le redoutable. Invité donc, Robin Campillo, Marina Foïs, Bruno Dumont, Louis Garrel et Michel Hazanavicius. Et à la fin de cette heure, trois critiques nous rejoindront pour un dernier tour de piste. Si Cannes retenait les documentaires en compétition, Laurent, c'est sûr, celui-là aurait sa place au palmarès. 12 jours de Raymond Depardon, 10 patients internés en hôpital psychiatrique devant un juge des libertés qui devra statuer du bien fondé de leur internement depuis qu'une loi de 2013 les y oblige. Résultat, 10 auditions, 10 exemples de folie contemporaine.
Oui, peut-on pleurer devant un documentaire? Je réponds oui, ça a été mon cas avec le nouveau film de Raymond Depardon, je le dis sans fausse pudeur. Tant cette leçon d'humanité, cette façon incroyable de nous présenter le mal de vivre de nos contemporains dont on se sent extrêmement proche, non, ce ne sont pas des fous, ce sont juste des femmes et des hommes en souffrance face à des hommes et des femmes qui sont des magistrats et qui essayent, qui tentent tant bien que mal de non pas de répondre à cette souffrance mais de l'analyser et de voir comment elle est compatible avec notre société et notre vivre ensemble. Voilà, c'est le très très beau thème du film de Raymond Depardon et c'est juste aussi l'occasion de dire que ce Cannes 2017 a été une très belle édition aussi de documentaires entre Varda, Lanzmann contestable mais quand même, Barbet Schroeder et quelques autres. On a vu de très très beaux films de la réalité.
Un voilà. Petit bémol sur ces 12 jours, la musique d'Alexandre Desplat, belle au demeurant, qui ponctue ses auditions, mais pas nécessaire, et pour adoucir quelles mœurs. Le film 12 jours sort le 29 novembre prochain.
Absolument.
Parmi les 4 films français en compétition, une belle surprise, 120 battements par minute de Robin Campillon. C'est son 3e film après Les Revenants et Eastern Boys. Campillon est aussi le scénariste attitré de Laurent Cantet. Il raconte ici le début des années 90, alors que le sida tue depuis près de 10 ans. Les militants d'ACT UP Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Au milieu de ce combat, une histoire d'amour, celle de Nathan et de Sean, qui consume, lui, ses dernières forces dans l'action. C'est une histoire française, digne et politique, où s'enchaînent débats et actions sur le terrain. Restitution fidèle d'une époque sans violon, cinglant, et où Campillo mélange harmonieusement l'intime et le collectif. Nous avons rencontré Robin Campillo.
Je vais résumer la situation. Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler sa nouvelle molécule. Et dans ces filets d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin.
Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre.
Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous.
Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements.
À ACT UP Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous.
Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie?
Bah moi dans la vie je suis serrant pot, c'est tout. Voilà comme ça se résume.
Bonjour Robin.
Bonjour.
Est-ce que vous revendiquez le terme film militant?
Ah oui, je pense que
Et ça m'intéresse parce que vraiment la figure du militant, c'est une figure qui est très impure au cinéma. C'est-à-dire que ce qui est trouvé, hein, j'ai l'impression, en tout cas, il y a très pas tant de films que ça qui montrent des militants, je trouve. Alors peut-être que j'en ai pas assez vu, mais en tout cas en France.
Et... C'est différent. C'est différent un film qui montre des militants et un film militant. Si vous
oui, mais je pense qu'il n'est pas. Comment dire, il n'est pas militant comme les personnages qui sont militants dans le film. Voilà, c'est une militance à côté, d'une certaine manière. Mais justement, sa militance, c'est sans doute aussi de représenter des figures de militants, de montrer quels sont les enjeux et de militants particuliers, parce que ça n'est pas des militants pour une cause. Pour moi, c'est les gens à l'intérieur d'ACT UP. Pour eux, le sida, c'était pas une cause, le sida, c'était leur vie. Et pour moi, la question de l'incarnation, c'est ce qu'on appelle une lutte. Pour moi, les luttes, c'est plutôt lié à quelque chose qui est beaucoup plus incarné, comme pour moi, ça a été pour les femmes à propos de l'avortement, où il y avait quand même une pratique personnelle solitaire de l'avortement, invisibilisée par l'État, etc. Et qu'à un moment, les femmes, ça a commencé aussi par des manifestes aussi, il y a eu des procès, et d'un seul coup, ça a été des manifestes où des femmes, en fait, sont sorties du placard. Enfin, il y a un mouvement de visibilité de l'avortement qui a été très important. Et moi, ça a à voir avec ces luttes-là, qui sont des luttes où les gens n'ont plus vraiment le choix. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se lancer corps et biens dans la lutte, quoi.
C'est une génération aussi qui est passée du « je » au « nous ».
Ouais. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression que dans les années 80, le sida a été vécu, en tout cas par certaines minorités et surtout par les gays, comme un truc extrêmement solitaire où il y avait le silence de la société, mais il y avait le silence même entre gays, moi je pense vraiment, parce que c'était très compliqué, qu'on se racontait qu'un tel est rentré à l'hôpital, etc., et qu'il y avait quand même une chape de plomb sur l'ensemble qui était extrêmement brutale, et qu'il a fallu inventer effectivement un nous. Et en même temps, à ACT UP, les gens disaient on fait de la politique à la première personne, c'est-à-dire que quand on parle en tant que malade, on parle en tant que de son expérience de malade, et pas d'un point de vue généraliste. Et ce que je trouvais assez beau dans ces réunions où il y avait des débats comme ça, assez généraux sur des actions, des débats assez, simples sur la question de trouver des slogans, de comment on fait une affiche, etc. Au milieu de tout ça, quelqu'un pouvait prendre la parole et revenir à lui au fait qu'il allait mal, au fait que d'un seul coup, et ça se réincarnait comme ça, et d'un seul coup, un débat qui pouvait paraître léger, d'un seul coup, basculer vers un truc assez... difficile, assez dur comme ça, et que c'était tout le temps ce mouvement-là. Après, le groupe, moi, la première fois que je suis entré, j'étais assez frappé du fait que les gens, c'était un groupe avec une autodérision incroyable, avec un humour incroyable, avec une vitalité incroyable, et que, encore une fois, à l'époque, les gens ne faisaient pas forcément malades, c'était des séropositifs, mais d'un seul coup, quand les gens devenaient malades, par contre, ça allait malheureusement assez rapidement.
Il me semble que c'est aussi un film sur la réinvention de la démocratie, parce que cet amphithéâtre, c'est un hémicycle. Ouais. À un moment, il y a une référence à la montagne, c'est-à-dire à 1789, en 92. Ouais. C'est une dimension importante et réelle, c'est-à-dire que vraiment vous avez eu le sentiment de participer à de la démocratie, alors que l'image d'ACT UP comme pas forcément très démocratique, vous pouvez vous dire.
Non, je n'ai jamais autant participé à la démocratie qu'à ACT UP. Ça, c'est vraiment, c'était incroyablement fort, la circulation de la parole et les débats et les tensions et l'électricité qui existait entre les personnes. C'est qu'il y avait quand même une liberté de ton qui était assez, assez incroyable, mais aussi, et c'est ça qui est important sur la question de la démocratie, c'est que évidemment, comme il n'y avait pas internet, etc., avoir un débat, c'était avoir un débat en chair et en os, c'est ce qu'il fallait. Et qu'avant d'affronter les pouvoirs publics, les institutions, les laboratoires pharmaceutiques, il fallait s'affronter soi-même. Mmh. Il fallait faire front, il fallait affronter ses idées, il fallait affronter son point de vue sur la maladie, affronter la contradiction. Et c'est, comme j'ai essayé de le montrer dans la première scène, confronter les perceptions des actions qui étaient menées, savoir ce qu'elles voulaient dire, ce qu'elles provoquaient comme ça. Et comme c'était... Il y avait quand même un peu un côté pied nickelé, il y avait un côté comme ça assez amateur aussi quand même. C'était montré que ça pouvait foirer, que ça pouvait aussi, mais qu'à chaque fois la parole était possible. Alors le groupe pouvait ne pas paraître comme démocratique parce qu'on avait l'impression que c'était des actions coup de poing, parce qu'il y avait une espèce de brutalité du groupe dans l'image, etc. Mais en réalité, il y avait beaucoup de démocratie à l'intérieur du groupe pour en arriver là.
Hier, à la projection de 15h, à la scène d'amour entre les deux garçons, les gens ont ri. C'était un rire gêné. Ça gêne encore ce genre de scène, non ?
Oui, je sais pas. C'est toujours un peu problématique. Moi, j'ai vraiment l'impression que les gens, parce qu'ils se découvrent tolérants aujourd'hui, ont l'impression que la société l'a toujours été ou qu'eux-mêmes l'ont toujours été. Mais en réalité, en fait, il y a même 10 ans, ça n'était pas pareil. Il y a 20 ans, ça n'était pas pareil. Et voilà, il y a quand même une période où le silence était quand même... la clandestinité, c'était ce qui était proposé aux gays quand même. Et moi, je me souviens d'un texte de Michel Foucault qu'il avait écrit en 83, enfin pas longtemps avant sa mort, et qui disait, au fond, deux hommes qui se matent dans la rue, qui vont baiser sous une porte cochère, etc., ça rassure le bourgeois. Mais deux hommes qui disent publiquement qu'ils s'aiment, là, par contre, ça remet en cause l'ordre bourgeois. Et je trouve qu'il y a un truc, c'est ça, ce qui s'est passé, c'est cette visibilité-là qui s'est produite au fil des années.
120 battements par minute de Robin Campillo, sortie prévue le 23 août prochain. Sinon, la surprise Laurent Palmarès pourrait venir du côté du réalisateur coréen Hong Sang-soo et son film Le jour d'après, paraît-il, applaudi par le jury et notamment par l'acteur américain Will Smith.
Oui, ce serait paradoxalement peut-être pas pour son meilleur film, mais enfin quand même 21 ans de cinéma, 21 films, c'est la régularité du métronome de Hong Sang-soo, et ça fait des films extraordinairement cohérents, avec souvent un homme fort face à des femmes très très fortes. Elle, voilà, donc c'est le processus habituel de ce cinéaste dont on adore quand même effectivement à la fois la régularité et la cohérence.
Que vous adorez. Oui, une friandise, je le disais, ou plutôt un détournement, et à l'arrivée un drôle de biopic, Le Redoutable, de Michel Hazanavicius, sur un épisode de la vie de Jean-Luc Godard, son histoire d'amour avec Anne Wierzinski, qu'elle raconte dans un livre et dont le film est adapté. Ensemble, ils ont tourné La Chinoise, très mal accueillie à l'époque, et au milieu de son histoire d'amour, Godard va complètement remettre en question son cinéma en pleine révolution, celle de mai 68. Ce n'est pas un film sérieux, il y a pourtant beaucoup de vérité à l'intérieur, la forme parodie beaucoup l'œuvre du maître, ce qui fait hurler certains détracteurs, et le grand atout du film, ça reste son acteur principal, Louis Garrel, le voici avec Michel Hazanavicius.
Mes vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de rire, ils rient. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait.
Même quand Godard n'est pas à Cannes, il est à Cannes. Est-ce que Godard est un modèle écrasant pour un réalisateur ?
Alors, un réalisateur, je ne sais pas. Moi, en l'occurrence, non, pas du tout. Je ne dirais pas que c'est un modèle, et alors écrasant, certainement pas. C'est un aîné qui a... Un aîné. C'est un vieux. Non, c'est un aîné qui a ouvert des portes, qui a élargi le champ des possibles, comme on dit. Je pense que tous les gens qui ont fait du cinéma après Godard lui doivent quelque chose. Pour autant, c'est pas forcément un modèle, mais il a inventé des formes. Il a bougé les frontières. Donc, bien sûr, on lui doit tous. Mais je pense que c'est le contraire d'écrasant. Je pense qu'il est au contraire, il a été libérateur.
Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que sa mystification totale maintenant, parfois même pas très juste au fond avec son travail. On a envie parfois de dire, mais c'est plus libre que ce que vous pensez. C'est pas simplement vous en faites une figure, comme il y a des journalistes qui me posent, mais vous n'avez pas eu l'impression d'être blasphématoire. J'aimais pas du tout, c'est que vous connaissez mal Godard, parce que c'est quelqu'un qui n'a sans cesse joué, provoqué. Les provocations qu'il a faites sont 1000 fois plus blasphématoires que cette espèce de film qui vient après une biographie américaine, une biographie française, deux romans sur lui. Enfin, il y a des quantités de choses qui se font déjà sur lui avant même ce film.
Il y a des références godardiennes partout dans le film, mais est-ce que c'est pas avant tout une relecture du Mépris ?
En fait, je crois que Le Mépris est un film, comment dire, très personnel pour Godard. Alors, oui, pour répondre vraiment à la question, sans doute un peu. Après, il y a un truc, je crois que beaucoup de titres de Godard pourraient être même des épitaphes, c'est-à-dire de vivre sa vie. Le Mépris, À bout de souffle, Bande à part, Le Petit Soldat, vous pouvez Adieu au langage. Il y en a plein que vous pouvez prendre comme ça et qui sont des professions de foi. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, oui, je crois que ce crépuscule d'histoire d'amour rappelle, oui, à des moments, le mépris.
Louis, vous avez fait un jour notre émission de radio, notre générique de fin avec votre imitation de la voix de Godard. Est-ce que vous avez gardé pour le film, est-ce que vous avez hésité à prendre cette voix ou pas?
Alors ça dépend, parce que ce que je dis souvent, c'est que le film est un collage de la figure d'Angélique Godard qui est multiple. C'est-à-dire il y a à la fois lui dans ses films, la manière qu'il a de jouer, toujours distancié, toujours burlesque et jamais naturaliste. Il y a à la fois lui quand il est en interview et qui s'énerve par exemple contre son interlocuteur, ou lui en interview quand il parle avec Serge Danet, où généralement il est plus calme et plus en accord avec l'intervieweur. Donc c'est un mélange de tout ça en fonction des situations du film de Michel, pour essayer à la fin de fabriquer un personnage qui serait pas Jean-Luc Godard. D'ailleurs, le film s'amuse avec le fait que je ne suis pas Jean-Luc Godard et que je joue Jean-Luc Godard.
On le dit d'ailleurs à un moment.
On le dit même dans le film. Donc il a fallu modérer, moduler. Mais moi, je dis maintenant que Jean-Luc Godard, pour moi, ça a été un peu ce que représente Rihanna pour d'autres. Moi, j'adore sa voix. Je trouve qu'elle est magnifique. Elle module énormément. Elle a une douceur, elle a une autorité, elle a une malice. Enfin,
moi, j'avais entendu l'imitation de Godard. Je dis bien le mot imitation dans votre émission. Bien avant d'écrire ce scénario. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai tout de suite pensé à Louis. C'est Louis ton nom, hein,
c'est, oui, c'est ça,
à Louis. Et cette imitation rentrait dans l'équation. Mais pour autant, dès que j'en ai parlé, tout de suite, on était d'accord sur l'idée que le film ne devait pas être une imitation. Et en fait, là, il y a un dialogue qui a commencé à s'installer. Louis, il était pratiquement prêt à le faire avec sa chevelure féline. On est au bord de Pierre Ninet avec c'est les deux acteurs les plus capillaires du cinéma français. Non mais on se chante parce qu'on s'aime bien, mais non mais donc il était prêt à le faire avec ses cheveux qui sont pas du tout godardiens et avec sa propre voix. Et en fait, quand on a commencé à faire les lectures, très vite, moi je lui disais, vas-y, fais-le quand même avec la voix de Godard. Et dès qu'il le faisait, ça devenait hilarant parce que c'était écrit en Godard, en fait. Donc les dialogues étaient, ils prenaient tout leur sens comme ça. Tu peux arrêter de faire quand je parle, merci. Et donc tout prenait son sens comme ça. Et après, il y a une espèce de négociation qui a été faite pratiquement. C'est-à-dire que, et l'idée était de dire à quel moment on donne assez de Godard pour permettre à l'imaginaire du spectateur d'accepter l'idée que c'est Godard, et on laisse quand même le maximum d'espace à Louis Garrel, c'est-à-dire que l'acteur doit pouvoir faire tous les Godards dont il a parlé, mais il doit pouvoir être aussi à l'aise dans des scènes d'intimité dans lesquelles on n'a jamais vu Jean-Luc Godard, donc on ne sait pas comment parle Jean-Luc Godard dans l'intimité, au lit, dans la cuisine, en parlant avec des gens, des copains, etc. Donc il y a eu une espèce de... Je dirais qu'il est moitié Garrel, moitié Godard. Il est Godard, quoi.
Louis Garrel est génial de bout en bout, je le dis devant lui. Vous dites que c'est quelqu'un qu'on aime aimer, donc c'est super important quand on fait un film sur Godard.
Alors, Godard, il a un charisme toxique, mais c'est quelqu'un qui a un charisme de dingue, même aussi tordu soit-il. Et c'est vrai que le charisme, c'est quelque chose qui est très 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 compliqué à filmer au cinéma, et d'avoir un acteur très beau, ça aide. Alors, ils ont refusé les acteurs très beaux, mais Louis Garrel, mais Louis Garrel, il est très beau garçon, il est charmant, et c'est vrai que même en lui rasant la tête, en lui mettant une espèce de casquette en genou, comme ça, il y avait un truc... Il reste sexy, et il reste charmant. Le film est assez irrévérencieux. Le film, fait des croche-pieds à la figure de Godard, mais de manière malicieuse, je pense. D'un côté, ce qui le rééquilibre, je pense, c'est que d'un côté, la forme du film rend complètement hommage, c'est une déclaration d'amour au cinéma, disons des années 60 de Jean-Luc Godard et même d'après. Et l'autre chose qui rééquilibre le film, c'est aussi le charme de Louis et l'honnêteté qu'il amène dans l'interprétation, qui fait qu'il y a le film, à mon sens, ne ricane jamais. Et si jamais il est taxé de ricanement, c'est vraiment une maladresse, c'est pas une volonté.
Est-ce que la grande différence entre Godard et lui à côté de vous à Azimbitius, lui a envie de plaire, Michel Azimbitius, et pas forcément Godard?
Oui, je pense que Godard, c'est pas Molière ni Michel. C'est parce qu'on ne se dit pas j'ai envie de plaire. Il a envie de communiquer ou d'établir des nouveaux rapports entre les choses, de découvrir de nouvelles choses. Je pense qu'il travaille comme un scientifique. Il a d'ailleurs dit lui-même que la caméra, c'était pour voir des choses qu'on peut pas voir à l'œil nu. Il travaille comme un scientifique, je pense. Il est tout le temps en train de vouloir utiliser le cinéma, pas pour une représentation ou d'une réalité ou d'une chose, mais de découverte. Michel, sa manière de faire du cinéma est une manière très humaine. Je pense que tu es très humaniste, Michel, et que tu as envie que les gens prennent du plaisir. Je pense que c'est le moteur le plus fort chez Michel, c'est que les gens prennent du plaisir en regardant les films.
Ça serait bien si Louis Garrel avait le prix d'interprétation ici à Cannes. Le Redoutable, lui, sortira le 13 septembre prochain. Sinon, Laurent, Cannes nous aura proposé deux visions de la Russie dans cette compétition. D'abord, celle de Zaglinsev qui, à travers l'histoire d'un couple qui se déchire, faute d'amour, c'est son titre, raconte une Russie qui se délite. Au tableau était déjà bien noir, mais alors son collègue ukrainien en rajoute une sacrée couche dans Une femme douce. Une femme qui tente de rendre visite à son mari emprisonné, l'histoire d'un voyage semé d'humiliation et de violence, et surtout une bataille absurde contre l'administration, une vision cauchemardesque avec de très grands moments de cinéma, et malheureusement une scène de rêve complètement kitsch, qui vient casser l'ensemble, non ?
Oui, oui, à mon sens aussi. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne rigole pas avec ces deux films russes, c'est clair. Mais ce qui serait assez drôle, pour le coup, ce serait que la Palme d'Or soit partagée entre ces deux films. Et là, je pense qu'on se fâcherait, Cannes se fâcherait diplomatiquement pendant les 20 ans à venir avec la Russie.
Dans le genre de proposition très originale, la mise à mort du cerf sacré du cinéaste grec Yorgos Lanthimos, comme un lointain petit frère du théorème de Pasolini, ou comment un jeune garçon, je vous sens soupirer, ou comment un jeune garçon va peu à peu terroriser un couple de chirurgiens aisés, Colin Farrell, Nicole Kidman, après avoir noué des liens avec leurs deux enfants. Un jeune garçon apparemment doué du pouvoir de faire tomber malade autrui par la seule force de sa pensée. Bref, un calvaire inspiré bien sûr de la tragédie grecque, ou comment filmer un univers déviant, un malaise suffocant où c'est vrai, la forme l'emporte beaucoup sur le fond, non ?
Ce fut un calvaire.
Bon. Non.
Mais si, mais si je dis, bah, si, ce fut un calvaire. Mais bon, voilà. Après, chacun son regard sur le film. J'avoue que ce cinéaste grec de film en film m'intéresse de moins en moins. Je trouve que ses premiers films étaient,
Canine.
Oui, par exemple, étaient intéressants. Là, je trouve qu'il s'enferme dans des procédés, dans des processus qui ne m'intéressent plus.
Formellement, c'est absolument sublime.
C'est votre avis.
Celui-là aurait pu se retrouver en compétition parce que, à la différence d'autres cinéastes, lui tient son sujet de bout en vous. Laurent Cantet revient avec L'Atelier, présenté à Certains Regards, une fiction autour d'un atelier d'écriture à la Ciotat de jeunes en insertion face à Olivia, une romancière connue, incarnée par Marina Foïs. Ensemble, ils devront écrire un roman noir. À l'intérieur de ce petit groupe, Antoine, jeune garçon indécis, révolté, solitaire et sans idéal, qu'Olivia va tenter de comprendre et de suivre dans ses affinités avec l'extrémisme, portrait social, portrait politique d'une génération qui ne trouve plus sa place dans notre monde. L'expérience a passionné Marina Foïs, la voici.
Vous savez, moi, ça, comme décor, ça me va. Ce serait bien de retrouver un cadavre sur un yacht comme ça au milieu du chantier.
Pas mal. Comme ça, nous, on a notre chantier naval et toi, t'as ton yacht de milliardaire. Bien joué.
Mais non, mais comme ça, on rejoint l'idée de Booba, là, on le retrouve calaché dans sa baignoire à la Scarface. Là.
N'importe quoi, on avait dit que ça devait être lié au passé, aux grèves, aux luttes, non ?
Ou toi, tu veux que l'histoire, ce soit un ouvrier qui revienne 20 ans après s'être fait virer pour tuer un milliardaire américain ? Un communiste qu'elle a haine, quoi.
Bah, mon grand-père était communiste, ça te dérange ?
Bah non, bah, t'as trouvé ton assassin. C'est un vieil arabe communiste en chaise roulante qui a fait le coup.
Bah, mon grand-père était pas handicapé, moi, je te le dis.
J'imagine bien le vieux en train de monter sur le bateau. Il est où le Yankee ? Je vais le buter.
On plaisante, là, je vous dis pas qu'on va tout garder, mais il y a des choses intéressantes. Par exemple, ce que propose Malika, que notre histoire soit liée au passé communiste de la ville, c'est pas mal.
En fait, vous voulez faire un roman politique, vous voulez pas faire un roman noir, vous pouvez le dire.
Ah, mais non, mais moi je veux rien.
Ouais. Vous voulez rien ? Vous voulez faire croire ça à qui ici ?
Bah, c'est pas comme ça que je le sens, mais bon. Puis tu sais, Antoine, un roman policier peut tout à fait être connecté aux politiques. C'est souvent le cas d'ailleurs.
Non, mais madame, c'est bon, ça me met mal à l'aise de parler de politique.
N'importe quoi, c'est pas que ça me met mal à l'aise, c'est juste que ça m'intéresse pas.
Ça, on sait très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique.
Oh, ta gueule.
Pouh ! S0, tu l'as tué.
Bonjour Marina.
Bonjour.
Vous êtes la seule professionnelle au milieu de tout le monde, mais vous êtes traitée pareil.
Ah bah oui. Oui, mais je pense que ça n'aurait pas eu de sens de me traiter autrement. Il doit obtenir... Il cherche la même chose des jeunes et de moi. Eux, ils ont une espèce de... Il y a quelque chose de brut, il y a une vitalité évidente. Il n'y a pas de doute qu'il se passera des choses pendant une prise avec eux. Et moi, je sais pas ce qu'il a à faire avec moi, mais il me met en situation de ne faire rien d'autre que regarder et écouter. Et j'ai eu un tel plaisir à les regarder, eux. J'aurais pu ne jamais parler, juste être là.
Mais ce qui a aidé, c'est qu'au fond, vous jouez la même chose que sur le plateau. C'est-à-dire que vous êtes une professionnelle face à des non-professionnels.
Oui, il y a un parallèle évident. évident, et qui était marrant d'ailleurs, parce que eux, ils me connaissaient de la télé, des Robins des Bois. Ils étaient, je crois, ultra contents de me rencontrer, donc très accueillants. Moi, hyper curieuse, évidemment, de savoir qui ils étaient, ce que c'était que leur vie et tout. Et donc, c'est vrai qu'il y avait, quelque chose qui n'était pas à chercher, qui était là tout de suite.
Et comme dans le film, il y a un gap énorme entre vous et eux.
Énorme. Pas seulement... je n'ai pas du tout leur histoire. Moi, j'ai tout de suite eu les moyens d'eux, accès quasiment à tout, car je viens d'un milieu intello et bourgeois. J'ai eu le choix toujours, ce qui n'est pas du tout leur cas. Et j'ai toujours eu des perspectives. C'était ça ou ça. Eux, j'ai bien compris avec eux. C'était d'ailleurs assez touchant. Avant de tourner, ils vendaient des glaces sur la plage. Le mois qui précède, ils sont arrêtés pour répéter le film. Le film s'est arrêté. Beaucoup savaient pas ce qu'ils feraient le mois d'après. Moi, c'est un truc qui m'a touchée, parce que bien plus que les moyens financiers ou c'est ça qui m'aurait terriblement angoissée à leur âge, c'est de pas savoir vers où aller. Alors que, ceci dit, ils ont beaucoup de ressources. Et quand on écoute comment ils s'expriment et comment ils racontent qui ils sont, comment ils réagissent à qui je suis, ils sont ultra intelligents. Ils maîtrisent la langue que j'adore. Il y a des fulgurances tout le temps avec eux. Ils ont beaucoup de ressources. Faudrait pas leur faire croire qu'ils sont rien du tout.
Ce qu'il y a des gens avec Comtesse, c'est qu'il ne charge pas la mule avec ce garçon. Ce garçon n'a ni idéal, ni idéologie, et en même temps, il fait très peur, non ?
Mais c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire, c'est la violence qui n'a pas d'objet, qui n'a pas d'ennemi connu. Et d'ailleurs, moi, j'ai été frappée parce que j'ai vu le film de Campillo samedi, et je trouve que les films se répondent à un endroit très particulier. La jeunesse de Campillo, plombée, condamnée, avec une rage et une colère légitime, qui connaît très bien son ennemi, et qui se bat pour quelque chose, et elle a raison de se battre, et elle le sait. Et la jeunesse de Cantet, qui a la même violence, la même colère, qui a raison aussi, parce que on leur donne pas de place évidente, tout ça, ils ont des raisons de colère, mais qui sont mal analysées, mal gaulées, posées sur un objet qui est pas clair. Et ça donne la tentation de l'acte gratuit, qui est la chose en vrai la plus effrayante. Enfin, je pense que c'est ce qui déstabilise profondément Olivia. Et je dois dire que là, il y a un point commun. Moi, c'est quelque... Par exemple, dans l'histoire de Ilan Halimi, l'affaire Fofana, tout ça, j'ai lu le bouquin de Morgan Portes. Beaucoup parlent du crime antisémite, évidemment, parce que c'est un juif qui est tué parce qu'il est juif. Sauf que la thèse antisémite, pour moi, elle tient pas la route, et c'est ça qui est pire. Il y a même pas de discours construit là-dessus. C'est un petit antisémitisme très léger qui fait qu'on torture. Et là, le personnage d'Antoine, il porte ça aussi. C'est-à-dire le goût de la violence pour la violence. Et pourquoi pas ? Et pourquoi j'essaierais pas ça ?
Sur le plateau, il y a eu des miroirs de ces tensions politiques ?
Ah bah oui, on a eu des discussions avec Quentin encore plus que moi. Moi, quand je suis arrivée aussi... Mais forcément, moi j'ai été saisie par un truc tout con. C'est qu'en parlant avec eux, ils sont tous croyants. Et moi, ma mâchoire s'est décrochée, et je leur ai dit d'ailleurs. J'aurais dit, oh là là, mais moi, quand j'avais 20 ans, je parlais pas du tout de religion, on s'en foutait, quoi. Je savais de loin que j'étais juive, mais j'avais jamais fait Shabbat. C'était pas, je veux dire, pour nous, ça n'existait pas. Et eux, dès que je disais, oh, j'adore, mais genre, je voyais des bons becs, je disais, oh, j'adore. Et ils me disaient, ah non, on adore que Dieu et tout. Mais vous êtes relou, qu'est-ce qu'on a? Mais c'était marrant parce que, en même temps, ils sont très sincères dans leur foi et leur... Évidemment, moi, je les ai pris de haut pendant 10 minutes, parce que je suis tellement sûre de moi-même et que j'ai raison. Mais en fait, ça marche pas. Et ça, c'est un miroir aussi du film, parce que cette jeunesse-là, elle crève du mépris qu'on leur met à la gueule tout le temps. Les adultes passent leur temps à leur dire qu'ils lisent pas, qu'ils connaissent pas Flaubert, que quand même... qu'ils sont sur les réseaux sociaux, que c'est pathétique... Mais c'est leur vie, c'est un endroit d'expression comme un autre. Pourquoi on leur accorde pas plus de crédit ? C'est dangereux de croire si peu en sa jeunesse. Moi, je trouve, et c'est con en plus.
L'atelier de Laurent Comtet, sorti prévu le 11 octobre prochain. Là, on peut vraiment parler d'expérience cinématographique, celle que Bruno Dumont tente avec la comédie musicale adaptée de Charles Péguy, oui, Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc. Vous avez adoré, Laurent.
Ben oui, parce que Péguy, Charles, écrivain français, catholique, socialiste à un moment, etc. Plus Philippe Découfflé, danseur inspiré. Plus Igor, dont je n'arrive pas à savoir entre Scarletti Bach et la musique métal ce qu'il est réellement. Mais en tous les cas, c'est très très intéressant musicalement et à l'oreille. Mais ça donne un résultat incroyable. C'est-à-dire que Bruno Dumont n'est jamais là où on pense qu'il devrait être en tous les cas. Et après Maloute l'an dernier qui nous avait... pas très plus, faut le dire, enthousiasmé, il faut être clair. Là, cette Jeannette-là, il est gonflé, quoi. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc, en plus, alors excusez-moi, même Luc Besson s'y est attaqué. C'est dire si l'éventail est large depuis Dreyer. Bon, mais lui, il ne s'y attaque pas, évidemment, comme les autres. Il s'y attaque à travers qui ? Ben Jeannette, c'est-à-dire la petite Jeanne d'Arc, c'est-à-dire celle qui n'est pas encore partie batailler, celle qui n'a pas encore été brûlée, comme dans tous les autres films. Non, c'est la petite Jeannette qui est avide de foi. Qui a soif de faire quelque chose pour son pays et de faire en sorte que Dieu puisse rayonner et que la foi puisse rayonner. C'est une histoire incroyable, elle est portée par une comédie musicale qui, effectivement, à mon sens, a été le grand choc de ce festival.
Et bien sûr, nous avons rencontré Bruno Dumont.
Quand j'aurai fait lever le siège d'Orléans, quand j'aurai sauvé de sa prison monsieur le duc d'Orléans, je ferai sacrer monsieur le dauphin à Reims dans la belle cathédrale.
T'as dit tout ça lui-même, le bon Dieu ?
Non, mon oncle, il m'a envoyé monsieur Saint-Michel, madame Sainte-Catherine et madame Sainte-Marguerite pour me parler.
Vous avez donc laissé les bandes ravageuses enflammer nos maisons.
Bonjour, Bruno Dumont.
Bonjour.
J'ai l'impression qu'à chaque nouveau film que vous faites, c'est comme si vous aviez un beau jouet, et c'était bien, vous avez bien joué avec lui, que vous allez le casser pour reconstruire autre chose.
Tout à fait. C'est une belle image, et elle est assez juste. J'aime bien jouer d'abord, et j'aime bien avoir un nouveau jouet. C'est-à-dire, effectivement, il faut que je m'amuse, donc je fasse des films qui me donnent de l'entrain, de l'enthousiasme. Et en général, ce qui me donne de l'enthousiasme, c'est de dénicher des choses nouvelles. Je n'avais jamais fait de comédie musicale. C'est un genre que je respecte beaucoup. J'aime vraiment ça bien. Et donc je me suis dit, tiens, faisons une comédie musicale.
En fait, l'idée, c'est de jamais refaire ce qu'on sait faire.
De toute façon, je referai toujours la même chose. Quoi qu'il arrive, mon inconscient travaille derrière moi. Donc de toute façon, quoi que je fasse, je vais répéter quelque chose. Donc je peux faire autre chose, puisque de toute façon, je ferai toujours la même chose.
La même chose, c'est quoi ? C'est la recherche de la grâce ?
Oui, c'est mes thèmes, sûrement. C'est mon enfance, les thèmes qui m'obsèdent et qui sont là et que j'essaie d'aborder sous des angles différents, en fait. Donc, en chantant, mais j'ai l'impression que je suis assez fatigué aussi de la psychologie naturelle, des dialogues, tout ça. J'ai du mal à faire dialoguer des gens. Donc, je les fais chanter. Voilà. Après, je sais pas ce que je vais faire, mais.
Il y a que vous pour trouver une association entre comédie musicale et Charles Péguy.
Ouais, ça c'est vrai. Non mais je pense que la seule façon d'accéder à Péguy, qui est un écrivain extraordinaire, mais totalement clos, quoi. Et en même temps il y a une clôture dans Péguy qui empêche, mais c'est génial, enfin c'est vraiment un génie. On le sait, c'est un génie de la poésie, mais pourquoi, la question que je me pose, pourquoi reste-t-il aussi enfermé dans quelque chose qui est inaccessible ? C'est le propre de la poésie quand même. Et je me suis aperçu, en fin de compte, quand on regarde l'histoire de la musique chorale, c'est quand même la poésie est là tout le temps dans la musique. C'est-à-dire toute l'histoire de la musique, c'est de la poésie. Et qu'on écoute une chanson de Brel ou qu'on écoute les Rolling Stones, on s'aperçoit, ou du rap même aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est la musique qui porte la poésie et qui la rend audible, en fait.
Et la grâce de la poésie et le pragmatisme d'un tournage, ça va comment ensemble ?
Ça se passe plutôt pas mal. C'est justement, je pense que la musique était la solution pour l'accès à Péguy. C'est-à-dire, Péguy, chanter, ça va. Pas chanter, c'est plus difficile, mais chanter, ça va. Donc après, il fallait trouver le sujet. J'ai pris un sujet assez convenu, c'est Jeanne d'Arc. C'est pas très original. Ce qui est peut-être plus original, c'est son enfance. Alors Péguy, justement, il en parle. Donc il a écrit la première partie de sa pièce Jeanne d'Arc, c'est l'enfance. Et ensuite, ce qui me faisait vraiment plaisir, c'est travailler avec une enfant. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire de voir une petite fille haute comme trois pommes dire du Péguy, c'est extraordinaire. Il y a une disproportion, il y a quelque chose de fantastique que cette petite fille de 8 ans dise du Péguy. Moi, je trouve ça déjà génial.
Mais la petite fille, c'est une petite fille en colère. C'est ça qui est très beau. C'est une petite fille qui ne comprend pas pourquoi Dieu ne fait rien à tout ce qui se passe, quoi.
Voilà, elle ne comprend pas pourquoi les gens ont faim. C'est très simple, elle ne comprend pas la misère. Voilà, les gens ont faim, voilà, elle ne comprend pas. Ensuite, elle ne comprend pas la damnation. Alors, on commence à passer un petit peu plus. Donc elle ne comprend pas que Dieu sépare les uns les autres. Il y en a qui sont élus et pas d'autres. Donc ça, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc du coup, Jeanne se dispute avec l'Église. C'est-à-dire qu'elle n'est pas d'accord avec Madame Gervaise en disant « Mais comment ça se fait? Comment Dieu peut-il laisser faire ça, d'abord? Et comment Dieu peut séparer d'un côté les bons et les méchants ?» Bah, la petite Jeannette, elle comprenait ça très bien. Et voilà, et après, c'est l'élection, c'est de croire, bah, moi, je vais régler le problème, les Anglais sont là, je vais les mettre dehors, parce qu'elles empêchent le roi de monter sur son trône. Donc ensuite, il y a la Jeanne guerrière qui arrive. Et donc ça, c'est, oui, c'est la maturation de cette demoiselle.
C'est fou comme son image est brouillée, parce que moi, pendant le film, j'ai pensé au Front National qu'il a récupéré, j'ai pensé à Macron, ouais, qui a quand même construit son discours le plus important là-dessus. On ne peut pas s'en empêcher.
Oui, mais il faut effacer ça, parce qu'elle couvre tout le champ de la pensée française, en fait. Elle est à droite et à gauche, et en même temps. On ne peut pas la prendre dans ses filets, c'est impossible, puisqu'elle est le contraire en permanence de ce qu'elle dit. Elle est à la fois sur un sol, sur une terre, sur un pays, mais elle veut monter dans l'universel, donc elle n'est pas, c'est pas une patriote obsédée par la France, absolument pas. Quand Peggy écrit ça, il était athée socialiste, donc il donnait une dimension universelle. Donc elle est tout à fait rebelle à la on peut pas la prendre. Elle est contraire. Elle est à la fois une sainte, une guerrière. C'est à la fois une paysanne, une femme du peuple, et en même temps c'est une guerrière qui monte au ciel. Elle a été à la fois contre l'Église, pour l'Église, brûlée par l'Église, sanctifiée par l'Église. Elle met le roi sur son trône et le roi la laisse tomber. Elle est à la fois proche du peuple et les non, elle est d'une contradiction incroyable, et je trouve qu'elle est très française. C'est pour ça qu'elle est aussi française, c'est qu'elle peut être Jaurès adoré, Jeanne, et Maurras aussi. Tout le monde est touché par la Jeanne d'Arc. Je pense qu'elle a une grâce qui fait qu'elle laisse personne indifférente, mais elle touche aussi l'homme grossier, parce qu'elle a quelque chose de grossier.
Et pour conclure cette 70e édition de Cannes, nous accueillons trois critiques. Bonjour Paolo Mereghetti.
Bonjour.
Du Corriere della Sera. Bienvenue Alex Vicente, notre ami del Pais.
Bonjour.
Et bonjour Thomas Borrez, de Studio Ciné Live et de France 24. Tout d'abord, un mot, puisque vous sortez tout juste de la projection de presse du dernier Polanski, d'après une histoire vraie, d'après le roman de Delphine de Vigan, une histoire de manipulation, domination, enfermement, avec Emmanuel Seigné et Eva Green. Paolo, c'était
qui est hors compétition, on le dit, oui, on dit au passage. Hein.
C'était comment?
C'était un Polanski moyenne. Ouais. C'est impeccable, tout bien fait. J'ai une passion personnelle pour Emmanuel Seigné. Mais à la fin, on s'attend toujours quelque chose en plus de Polanski. Je ne sais pas s'il y a trop côté Assayas qui a signé le scénario et peut-être un peu trop de Polanski.
Thomas Borrez.
Oui, impeccable, c'est le mot. C'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a adapté d'un best-seller, le casting qui va bien, le réalisateur qui va bien, le grand cinéaste qui va bien avec ce film sur la paranoïa, sur le double, sur la création. Donc, tout est impeccable. Et donc là, à partir de là, on va essayer de voir où va se glisser l'étrange, le surprenant. Et malheureusement, l'étrange et surprenant n'arrivent pas beaucoup. Alors après, il y a quelque chose d'assez comique dans le film. Il y a un côté un peu grand guignol, de temps en temps, cette manière un petit peu d'appréhender cette histoire. Et du coup, on imagine ce qu'aurait pu être le film si Roman Polanski avait assumé encore un peu plus cette direction. Eva Green, on est partagé entre une espèce de jeu, elle joue le double maléfique, entre l'envie de trouver ça ridicule et en même temps, justement, ce ridicule qu'elle assume jusqu'au bout, d'une certaine manière, rend son personnage finalement pas si inintéressant.
Alex Vicente,
je suis plutôt d'accord avec mes collègues, je trouve que c'est un tout petit Polanski, sans l'ambiguïté malsaine qu'on lui connaît, il frôle parfois la caricature, tout ce qu'il y avait de malin dans le roman de Delphine de Vigan disparaît, je trouve, à l'écran. Et j'ai eu l'impression que le cinéma de Polanski s'enlissait, ce qui m'a rendu très triste.
Sinon, on le disait en ouvrant cette 70e édition, tiens, Paolo, aurait été, d'un point de vue cinéma, quand même très décevante, non? Vous qui avez couvert beaucoup de festivals de Cannes.
Oui, quelqu'un dit que c'est la pire édition depuis une vingtaine d'années à peu près.
De l'histoire, même.
De l'histoire, je ne sais pas. Wow, monsieur, voilà. J'ai raté quelques éditions au commencement, au moins. Mais en tout cas, c'est une édition très, très décevante. Il y a eu quelques beaux films, comme toujours, mais il y a eu beaucoup de films que j'ai pas aimés et que, surtout, j'ai pas compris parce qu'il était en compétition. C'est ça le vrai problème. Ouais. La compétition de Cannes doit être quelque chose qui nous montre les choses meilleures, ou plutôt les où le cinéma veut aller, des choses comme ça. Et ça, il semble que le seul lieu où le cinéma veut aller, c'est la montée des marches. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de stars, trop peut-être, mais il y a plutôt peu de cinéma.
La faute à qui ? Peut-être pas aux sélectionneurs, parce que peut-être surtout à ce qu'ils ont reçu comme choix. Peut-être qu'il y a une question de timing aussi, Thomas, à savoir les bons films sont pas prêts et les grands metteurs en scène non plus.
On rappelle 2000 films, hein, quand même.
Ouais, 2000 films. Hein. Alors, oui, c'est marrant, mais alors, il y aura toujours cette espèce de vieille antienne qui dira 2000 films vus mais toujours les mêmes au final. Donc légitimement se poser la question et de se dire que on a vu beaucoup de films où les auteurs à la fois faisaient presque des surfilms, c'est-à-dire qui correspondaient, on avait l'impression, à ce qu'on est en droit d'attendre d'un chef-d'œuvre cannois, c'est-à-dire où on nous pose la mise en scène sur la table, on peut découper des petits morceaux, il y aura à manger pour tout le monde. Je pense à des cinéastes pourtant que j'aime bien, des gens comme Zviagintsev.
Non, mais il a fait un souffle, il va vivre par rapport à ce qu'il a fait précédemment.
Oui, mais dans sa mise en scène,
il est très grand quand même.
Oui, enfin, ça reste un grand cinéaste, mais d'une certaine manière, c'est pas tant la qualité du film, c'est qu'on voit finalement cette mise en scène et on voit lui en train de faire un film pour Cannes. Et on a eu ce sentiment-là sur plein de films. Donc peut-être que on arrive au bout aussi d'un processus et des limites d'une compétition comme celle-là, c'est-à-dire de voir des auteurs qui se mordent la queue. Voilà.
Alex.
Oui. À nouveau, je suis d'accord avec mes confrères. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de déceptions et très peu de surprises. Donc ça fait une mauvaise sélection officielle. Le film d'Haneke a déçu. Le film de Kawase, moi personnellement, ça m'a déçu un peu aussi. Le film de Doyon m'a beaucoup déçu alors que j'avais des grandes attentes. Donc, comme Thomas le disait, tous ces grands auteurs dont on attendait de nouveaux chefs-d'œuvre n'ont pas été à la hauteur. Je suis particulièrement concerné par la sélection des cinémas français dans la compétition, car ni De Pléchant en ouverture, ni le Michel Hazanavicius, le Redoutable, ni le film de Jacques Doyon sur Rodin, ni L'Amant double de Ozon ont le niveau suffisant pour moi pour être de la compétition cannoise. Il y a seulement le film de Romain Campillo qui figure d'exception. Oui. Mais je trouve ça triste dans un festival où on a vu des bijoux dans des sections parallèles, des bijoux de cinéma français comme les nouveaux films de Claire Denis ou de Philippe Garrel, qui ont remporté ex aequo le prix principal de la quinzaine des réalisateurs.
Une question subsidiaire, c'est une scène qui me restera en tête très longtemps. C'est une scène du Zaginsev où un petit garçon pleure derrière une porte. Vous avez, Paolo, par exemple, une scène qui vous reste. Quelle est pour vous la scène qui résumerait toute cette compétition?
Cette scène de Zviagintsev, c'est très beau. Le film qui pleure sans faire du bruit et ses parents se disputent. Ça, c'est absolument
saisissant.
Absolument vrai. Oui, voilà, exactement. Et pour le reste, l'autre image, c'est les 90 invités pour fêter
les
70 ans, voilà, les palmes d'or qui au premier rang et puis tous les autres derrière. Ça c'est une belle image, mais il y a très peu à faire avec la compétition. Ça c'est le problème.
Thomas Borès, vous êtes d'accord avec Alex Vicente par rapport aux perles en compétition parallèle?
Oui, alors il y a beaucoup de perles et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi il n'y a pas eu la petite surprise, comme il y a chaque année en compétition officielle, justement, des films qu'on pourrait voir en section parallèle, parce que trop petites choses, et qui viennent créer la surprise. Oui, il y a des choses formidables dans les sections parallèles. Je pense, vous avez parlé de Jeannette, de Bruno Dumont, qui est un film étonnant. Macala, qui est un documentaire français, qui était la semaine de la critique. Donc, il y avait plein de choses étonnantes, mais il faut rappeler quand même que Cannes, ce n'est pas que la compétition, c'est plein d'autres films, c'est vrai que, globalement, on peut faire son marché sans dépenser d'argent.
Il faut faire un choix et s'il y a une compétition, il faut mettre le meilleur film comme ça. Il y a une image que j'ai beaucoup aimée et c'est celle de Varda dans son film Village que j'ai aimé à la folie, vraiment. Ouais. C'était quelque chose de ravissant.
J'ai demandé à chacun enfin votre palme d'or, Alex Vicente, ce serait quoi? Il y en a pas. Vous pouvez répondre ça, hein.
J'hésite entre Prix des airs, comme on dit, et sinon le film de Robin Campillo, 120 battements par minute, Je ne suis pas sûr que ce soit une Palme d'Or, mais c'est le film que je préférais en compétition, dans une sélection qui... J'avais l'impression que la sélection ne parle pas du tout du monde d'aujourd'hui, mis à part deux ou trois exemples par exemple le film de Yorgos Lanthimos ou de Robert Oslund qui le faisait d'une façon un peu grossière, j'ai trouvé que le cinéaste ne parlait pas du tout du monde d'aujourd'hui.
Très vite, Thomas, votre Palme.
Oui, Le jour d'après, de Aung San Suu, grand petit film, je dis petit parce que il est modeste dans son architecture, mais c'est un grand film.
Paolo.
120 battements par minute.
Pour moi, ce serait Djaginsef.
Le Djaginsef aussi, bien sûr.
Un très grand merci à tous les
trois
et aux équipes techniques, à David Jacubo-Viez, notre réalisateur. Merci à Raphaël Grib-Marquis. On se retrouve la semaine prochaine à Paris. Et pour ce dernier générique cannois, le redoutable, inévitable, l'irrésistible Louis Garrel, déguisé en Jean-Luc Godard. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs, il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Je porte au Cantelès a écrit la musique du générique, les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Marie Boudbès s'est occupée de la préparation, c'est une émission réalisée par Anne Weinfeld. Elle est produite et présentée par Christine Masson, mais Laurent Delmas aussi y a mis un peu du sien. Il y avait Bertrand Bonello qui était assis aussi dans la pièce du milieu. Il y avait Thomas Pitquin qui regardait ses mains. Moi, je lui demandais juste une chose, pourquoi tu pensais cinéma, mais tu le vivais ton cinéma. Tu préparais ton film, mais est-ce que ton film, il était préparé par toi ou par ton producteur?
Par moi.